C'était un catalogue mince, 16 pages, imprimé sur un joli papier couleur ivoire, presque deux fois plus haut que large, avec de jolies didones de différentes tailles, des lettres très élégantes. La couverture indiquait sobrement « Catalogue des établissements métallurgiques, le souvenir patriotique, stèles, monuments et statues à la gloire de nos héros et de la France victorieuse. » Il s'ouvrait sur une page admirablement calligraphiée avec, dans le coin en haut à gauche, Jules d'Épremont, sculpteur, membre de l'Institut, 52 rue du Louvre, boîte postale 52, Paris, Seine. « C'est qui ce Jules d'Épremont ?» avait demandé Albert lors de la conception du catalogue. Édouard avait levé les yeux au ciel, aucune idée. En tout cas, il faisait sérieux, croix de guerre, palmes académiques, domicilié rue du Louvre, ben, quand même avait plaidé Albert, que ce personnage souciait beaucoup. On va s'apercevoir très vite qu'il n'existe pas. Membre de l'Institut, c'est facile à vérifier. Ben, « c'est pour ça que personne ne vérifiera », avait écrit Édouard. « Un membre de l'Institut, ça ne se discute pas !» Albert, sceptique, devait convenir qu'effectivement, en voyant le nom imprimé, on n'avait pas envie de douter. Il y avait une petite notule, à la fin, qui présentait brièvement sa carrière, le type même du sculpteur académique dont les réalisations rassurent ceux que la proximité avec un artiste pourrait inquiéter. L'adresse, 52 rue du Louvre, n'était rien d'autre que celle du bureau où avait été ouverte la boîte postale. Le hasard s'en était mêlé, leur attribuant le numéro 52, ce qui achevait de donner à l'ensemble un côté réfléchi, institué, étranger aux contingences. Une minuscule ligne en bas de la couverture indiquait sobrement « Prix comprenant la livraison en gare sur le territoire de la France métropolitaine, aucune inscription indiquée au dessin n'est comprise. » La première page présentait l'arnaque proprement dite. Monsieur le maire, plus d'un an a passé depuis la fin de la Grande Guerre et bien des communes de France et des colonies songent aujourd'hui à glorifier, comme elles le méritent, la mémoire de leurs enfants tombés au champ d'honneur. Si la plupart ne l'ont pas encore fait, ce n'est pas faute de patriotisme, mais faute de moyens. C'est pourquoi il m'a semblé de mon devoir, en tant qu'artiste et ancien combattant, de me porter volontaire pour cette cause admirable. J'ai donc décidé de mettre mon expérience et mon savoir-faire à la disposition des communes qui souhaitent ériger un monument commémoratif en fondant le souvenir patriotique dans ce but. Je vous propose ici un catalogue de sujets et d'allégories destinés à pérenniser le souvenir de vos chers disparus. Le 11 novembre prochain sera consacrée à Paris la tombe d'un soldat inconnu, représentant à lui seul le sacrifice de tous, à événement exceptionnel, mesure exceptionnelle, afin de vous permettre de joindre votre propre initiative à cette grande célébration nationale, je vous propose une réduction de 32% sur l'ensemble de mes œuvres spécialement conçues pour l'occasion, ainsi que la gratuité des frais d'acheminement jusqu'à la gare la plus proche de votre commune. Afin de respecter les délais de fabrication et de transport et soucieux d'une réalisation de qualité irréprochable, je ne pourrai accepter que les commandes qui seront parvenues avant le 14 juillet prochain pour une livraison au plus tard, le 27 octobre 1920, vous laissant ainsi le temps d'ériger le sujet sur le piédestal préalablement construit. Pour le cas, hélas probable, où au 14 juillet les demandes dépasseraient nos possibilités de fabrication, seules les premières commandes seront honorées dans leur ordre d'arrivée. Je suis certain que votre patriotisme trouvera dans cette proposition qui ne pourra pas être renouvelée l'occasion d'exprimer à vos chers morts que leur héroïsme restera éternellement sous le regard de leur fils comme le modèle de tous les sacrifices. Agréez, monsieur le maire, l'expression de ma considération toute distinguée, Jules d'Épremont, sculpteur, membre de l'Institut, ancien élève de l'École nationale des beaux-arts. Mais cette remise, pourquoi 32% avait demandé Albert. Question de comptable. Pour donner l'impression d'un prix très étudié, écrivit Édouard. C'est incitatif. Et de cette façon, tout l'argent arrive pour le 14 juillet. Le lendemain, on met la clé sous la porte. À la page suivante, une courte notice expliquait dans un encadré du plus bel effet « Tous nos sujets peuvent être fournis soit en bronze d'art ciselé et patiné, soit en fonte de fer ciselé et bronzé. Ces matériaux d'une grande noblesse donnent au monument un cachet spécial de bon goût, symbolisant parfaitement l'incomparable poilu de France ou tout autre emblème exaltant la vaillance de nos chers morts. L'exécution de ces œuvres est garantie irréprochable et leur durée illimitée sous réserve d'un entretien tous les 5 ou 6 ans. Seul le socle, facilement réalisable par un bon maçon, restera à la charge des acheteurs. Suivait le catalogue des œuvres vues de face, de profil ou en perspective, avec les cotes détaillées, hauteur, largeur et toutes les combinaisons possibles. Départ pour le combat, à l'attaque, debout les morts, poilu mourant en défendant le drapeau, camarades de combat, France pleurant ses héros, coq foulant un casque Bosch, victoire, etc. À l'exception de 3 modèles bas de gamme pour les très petits budgets, Croix de guerre, 930 francs, torche funéraire, 840 francs et buste de poilu, 1500 francs, tous les autres prix s'échelonnaient entre 6 000 et 33 000 francs. En fin de catalogue, cette précision. Le souvenir patriotique ne sera pas en mesure de répondre par téléphone à toutes les sollicitations, mais toutes les questions posées par courrier recevront une réponse dans les meilleurs délais. Eu égard à l'importance de la remise, les commandes devront être accompagnées d'un acompte de 50% de leur montant à l'ordre du souvenir patriotique. Chaque commande, théoriquement, devait rapporter de 3 000 à 11 000 francs. Théoriquement. Contrairement à Albert, Édouard ne doutait de rien, il se tapait sur les cuisses, la jubilation de l'un était proportionnelle à l'angoisse de l'autre. Avec sa patte folle, Édouard n'avait pas pu monter les paquets de catalogues jusqu'à l'étage, combien même il en aurait eu l'idée. C'était affaire d'éducation, il avait toujours eu quelqu'un à sa disposition. Sur ce plan, la guerre avait seulement été une parenthèse. Il fit un petit signe de regret, les yeux rigolards, comme s'il ne pouvait pas aider à cause des ongles, il agita les mains, l'air de dire « Le vernis, pas sec !»« D'accord, dit Albert, je m'en occupe. » Il n'en était pas si fâché que cela, les tâches manuelles ou ménagères lui permettaient de réfléchir. Il commença une longue série d'allers-retours, empilant consciencieusement les paquets d'imprimés au fond de la pièce. 2 semaines plus tôt, il avait passé une annonce pour chercher du personnel, il y avait 10 000 adresses à écrire, toutes sur le même modèle, hôtel de ville, ville de, nom du département. On rédigeait cela à partir du dictionnaire des communes, en excluant Paris et sa périphérie, trop proche du prétendu siège de l'entreprise. Mieux valait s'adresser à la province profonde, aux villes moyennes. On payait 15 centimes l'adresse. Avec tant de chômage, il n'avait pas été difficile de recruter 5 personnes de belle écriture, 5 femmes. Albert avait préféré. Elle poserait moins de questions, s'imaginait-il. Peut-être aussi cherchait-il simplement à croiser des femmes. Elle pensait travailler pour un artisan imprimeur. Le tout devait être bouclé en une dizaine de jours. La semaine précédente, Albert était allé leur porter les enveloppes vierges, l'encre, les plumes. Dès le lendemain, en sortant de la banque, il commencerait à les ramasser. Il avait ressorti pour l'occasion son havresac de la guerre. Il en aurait vu de belles, celui-là. On consacrerait alors les soirées à mettre sous pli Louise aiderait. La petite fille, évidemment, ne comprenait rien à ce qui se passait, mais elle se montrait très enthousiaste. Cette affaire lui plaisait beaucoup parce que son ami Édouard était devenu gai, très gai. Ça se voyait au masque, de plus en plus coloré, de plus en plus fou. Encore un mois ou deux et on nagerait dans le délire. Elle adorait. Albert avait remarqué qu'elle ressemblait de moins en moins à sa mère, non pas physiquement, il n'était pas très physionomiste, il ne percevait jamais les ressemblances entre les gens. Non, mais cette tristesse permanente sur le visage de Madame Belmont, derrière sa fenêtre, ne se retrouvait plus sur celui de Louise. On aurait dit un petit insecte sortant de sa chrysalide, de plus en plus joli. Albert, parfois, la regardait en cachette et lui trouvait une grâce émouvante qui lui donnait envie de pleurer. Madame Maillard disait « Si on le laissait faire, Albert, il passerait son temps à pleurer. Oh, j'aurais pu avoir une fille, ça aurait été pareil. » Albert irait tout poster au bureau du Louvre pour que le cachet corresponde à l'adresse. Il devrait faire de nombreux voyages en plusieurs jours. Ensuite commencerait l'attente. Albert avait hâte que les premiers règlements arrivent. Il se serait écouté, il aurait raflé les premières centaines de francs et se serait enfui avec. Édouard ne l'entendait pas de cette oreille. Pour lui, pas de départ avant d'avoir atteint le million. « 1 million !» avait hurlé Albert. « Mais t'es complètement fou !» Ils commencèrent à se disputer sur la hauteur du chiffre acceptable, comme s'ils ne doutaient pas de la réussite de leur entreprise, ce qui pourtant était loin d'être acquis. Pour Édouard, le succès était certain, inéluctable, avait-il même écrit en grandes lettres. Albert, lui, après avoir recueilli un handicapé en rupture de ban, avoir volé 12 000 francs à son employeur et monté une escroquerie qui pourrait lui valoir la peine de mort ou la prison à vie, n'avait d'autre solution que de faire comme s'il croyait au succès. Il préparait son départ, passait ses soirées à consulter les horaires des trains pour Le Havre, Bordeaux, Nantes ou Marseille, selon qu'il projetait de prendre un bateau pour Tunis, Alger, Saïgon ou Casablanca. Édouard travaillait. Après avoir confectionné le catalogue du souvenir patriotique, il se demanda comment réagirait un Jules d'Épremont réel contraint d'attendre le résultat de sa prospection commerciale. La réponse lui sauta à l'esprit. Il répondrait à des appels d'offres. Quelques villes importantes, disposant des moyens d'éviter les sujets industriels, commençaient à organiser des concours d'artistes pour des monuments originaux. Les journaux avaient publié plusieurs annonces relatives à des œuvres évaluées à 80, 100 et même 150 000 francs. L'offre la plus juteuse, et pour Édouard la plus attractive, restant celle de l'arrondissement où il était né, qui dotait l'artiste retenu d'un budget de quelque 200 000 francs. Il avait donc décidé de tuer le temps en préparant le projet que Jules d'Épremont proposerait au jury, un large triptyque intitulé « Gratitude », comprenant d'un côté une « France menant les troupes au combat », de l'autre de vaillants poilus chargeant l'ennemi, les deux scènes convergeant vers le centre où se déploierait une victoire couronnant ses enfants morts pour la patrie, vaste allégorie dans laquelle une femme drapée couronnait de la main droite un poilu victorieux en posant sur un soldat français mort un regard tragique et inconsolable de Mater Dolorosa. En peaufinant la vue principale dont il soignait particulièrement la perspective et qui ouvrirait son dossier de candidature, Édouard gloussait. « Un dindon !» disait en rigolant Albert quand il le voyait travailler. « Non, je te jure, tu glousses comme un dindon !» Édouard riait de plus belle et se penchait avec gourmandise sur son dessin.